Loire Mag, le podcast. Chaque mois, RCF, en partenariat avec le département, vous propose de partir à la découverte des femmes et des hommes qui font vivre notre territoire ligérien.
Bonjour à toutes et à tous. Dans ce nouveau numéro de Loire Mag, le podcast, nous allons partir à la découverte de notre département et des personnes qui le font vivre. C'est le cas de la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées. Nous verrons le rôle qu'elle tient pour les personnes handicapées et leurs proches. À notre service, au service des Ligériens, ce sont les archives départementales. Des travaux sont en train d'être effectués dans ce bâtiment gardien de l'histoire de la Loire. Nous irons à sa découverte. Et puis une autre découverte que nous ferons, c'est celle de Graines Locales, un magasin de produits bio. Enfin, nous terminerons par une immersion au cœur du processus de fabrication de la fourme de Montbrison.
Loire Mag, le dossier.
La semaine dernière s'est clos la session de dépôt de candidature à la reconnaissance comme usager expert au sein de la MDPH de la Loire, la maison départementale des personnes de notre département. Christiane Besson est responsable à la MDPH de la Loire du service accueil, courrier, numérisation. Elle revient sur le rôle de la MDPH pour les personnes handicapées et leurs proches et la responsabilité nouvelle que sera désormais celle d'usager expert au micro d'Anne-Marie Vergnon.
Christiane Besson, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable du service accueil, courrier, numérisation à la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, donc dans la Loire. Je vous remercie beaucoup parce que c'est un petit peu au débotté que vous répondez à mes questions et je vous en suis reconnaissante. Alors, peut-être quelques mots sur votre service accueil, courrier, numérisation. Ça fait beaucoup de choses. On imagine que c'est évidemment le premier contact des usagers. Qu'est-ce que cela représente ?
Alors c'est vraiment la porte d'entrée des MDPH, c'est-à-dire que c'est vraiment pouvoir accueillir les personnes qui portent un handicap pour répondre à leurs questions, que ce soit leurs inquiétudes ou leurs questions portant sur leur dossier, sur leurs droits. C'est les conseiller. Pour ce qui est de la cellule courrier numérisation, eh bien c'est la porte d'entrée à tout document que peuvent nous envoyer les personnes et le traitement de ces documents pour que ces documents puissent arriver dans le portefeuille des instructeurs qui vont instruire cette demande. Et ensuite, ces informations vont aller jusqu'aux évaluateurs qui vont pouvoir traiter les demandes des personnes.
On doit d'abord, bien sûr, vous solliciter pour faire reconnaître le handicap, peut-être, avec les prestations qui peuvent en découler.
Tout à fait, et c'est vraiment pas simple, parce qu'il existe vraiment différents droits et prestations que les personnes ne sont pas censées maîtriser toute cette connaissance. Donc vraiment, il y a une mission d'accueil, d'accompagnement et de renseignement pour que les personnes puissent faire valoir leurs droits.
On comprend du coup mieux ce dont il a été question déjà dans notre émission précédente, Loire Mag, le podcast sur RCF, c'est-à-dire le comité d'usagers. Les usagers experts, c'est en cours de construction ce comité. Vous nous rappelez ce dont il s'agit, Christiane Besson ?
L'idée, ça a été vraiment pour nous aider dans cette difficulté que peuvent rencontrer les personnes et qu'il faut qu'on évalue. L'idée, c'est d'intégrer l'usager à l'intérieur de la MDPH pour qu'il puisse nous donner cet avis. Pour le coup, on a mis en place deux actions. Une sur la mise en place d'usagers experts qui vont être des personnes en situation de handicap ou bien leur famille proche ou bien les aidants familiaux pour intégrer la MDPH et donner leur avis sur les projets, nous aider sur des axes d'amélioration concrets au sein de la MDPH.
Ces usagers experts, ils n'appartiennent pas forcément à une association. C'est vraiment leur expérience personnelle, qu'ils soient eux-mêmes handicapés ou leur famille, leurs proches, qui vont pouvoir vous apporter justement leur expertise.
Oui, c'est ça. Hein. Vraiment, c'est la personne en situation de handicap ou bien son représentant légal ou bien un aidant familial. Ces personnes seront amenées à tenir des permanences. La MDPH va bien évidemment les former un peu plus à toutes nos prestations. Et puis, ces personnes-là pourront tenir des permanences sur les lieux d'accueil pour pouvoir recevoir des personnes qui auraient des questions.
La semaine dernière, c'était la fin des inscriptions. Peut-être qu'il y aura des renouvellements possibles au cours des années à venir.
Oui, pour l'instant, c'est une première, mais c'est quelque chose qu'on souhaite voir perdurer. Donc évidemment qu'on prendra des candidatures au fur et à mesure. Ce qu'il faut préciser aussi, les usagers experts auront une mission d'une durée proposée de 3 ans. Bien évidemment, il y a quelques conditions. Il y a une charte d'engagement à la confidentialité, par exemple, qui va devoir être signée par ces personnes-là. Et puis, tenir un calendrier de permanence.
Alors ensuite, certains d'entre eux vont participer au comité des usagers. Certains usagers experts vont rentrer dans le comité des usagers. C'est quoi ?
C'est un lieu pour que les usagers puissent donner leur avis. Un lieu pour discuter sur l'amélioration de la réponse des MDPH aux personnes en situation de handicap. Et un lieu pour proposer des changements. Ça peut être un usager expert, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Une personne peut être usager expert et ne pas être sur le comité des usagers. Et inversement, ou participer aux deux. Le choix est laissé. Du coup, le comité des usagers est beaucoup plus un collectif par rapport à l'usager expert à qui on va demander de pouvoir en individuel répondre aux questions des personnes qui en auraient. Le comité des usagers va par exemple faire attention au respect des droits et des usagers et va également faciliter leur démarche. Il va participer à l'amélioration de la qualité de l'accueil, du traitement des dossiers. Voilà, il va être associé au projet d'évolution des MDPH, où il pourra donner son avis. Vous savez qu'on est toujours en évolution permanente depuis la loi de 2005 qui a porté les MDPH, a vraiment évolué et est en constante évolution. Et là, c'est intégrer des personnes à cette évolution constante des MDPH.
Loire Mag, le podcast au cœur de la vie de notre département de la Loire.
L'histoire de notre département est riche. Des contes du forêt en passant par le passé industriel du bassin stéphanois, de nombreux événements ont fait ce qu'est la Loire aujourd'hui. Mais pour connaître cette histoire et son souvenir, il faut bien garder des traces du passé. Et c'est ça le rôle des archives départementales. Dans ce grand bâtiment, des kilomètres de documents sont conservés pour la mémoire. Nous nous sommes rendus sur place pour découvrir ce lieu important de notre territoire. Nous avons rencontré Alain Morga, le directeur des archives départementales. Alors on se trouve ici, dans les archives. On peut peut-être commencer par faire une petite présentation rapide. Les archives, qu'est-ce que c'est ? À quoi ça sert ?
Alors les archives, ça sert à conserver la mémoire d'un territoire. Les archives départementales en particulier ont la charge de la conservation de la mémoire et du patrimoine écrit de chaque département. Ils ont été créés à la Révolution et ils ont conservé ce rôle jusqu'à nos jours.
En termes de quantité de documents, ça représente quoi ?
Alors, c'est toujours ça qui est impressionnant avec les archives. On a 38 km linéaires de documents.
On les conserve pendant très longtemps, mais pourquoi ?
Je dirais qu'on a un petit moyen mémotechnique chez les archivistes. On a quatre grandes missions qui commencent toutes par la même lettre. C'est la lettre, c'est collecte, conservation, et il y a aussi le classement, parce qu'il faut mettre de l'ordre dans ces 37 km, sinon c'est pas la peine de les conserver. Et on ne les conserve effectivement pas pour le plaisir, on les conserve pour les communiquer à tous ceux qui peuvent être intéressés d'en avoir connaissance. Les archives, c'est un bien commun.
Est-ce que vous avez des documents assez exceptionnels ici, des documents qui sortent du lot dans ces archives ?
Alors, nos documents les plus anciens, ils ont quand même eu 100 ans, ils datent du 12e siècle. On a quelques belles archives de prieuré, de pommiers par exemple, ou des archives liées à l'abbaye de Charlieu. Mais je dirais, nos archives peut-être les plus exceptionnelles, c'est lié à l'histoire du territoire, c'est des archives industrielles. Une des acquisitions les plus marquantes de ces 20 dernières années, c'est les archives de Manufrance.
Des travaux sont en train d'être faits sur place. En quoi consistent ces travaux ici ?
Alors, les archives départementales sont installées depuis 1987. Elles y étaient même un peu à l'étroit, donc il a fallu construire une extension qui a été mise en service en 2019. Donc on pourrait se dire que tout va bien. Mais en fait, le bâtiment de 87 était déjà vieillissant et surtout, c'était une passoire énergétique. On avait du mal à assurer parfaitement la bonne conservation de nos archives. C'est quand même notre mission première. Donc, on mène une grosse opération de rénovation énergétique qui va nous permettre d'améliorer cette situation. Et puisque on a un chantier d'envergure, on en profite aussi pour rénover tous les espaces ouverts au public, que ce soit les salles d'exposition, la salle de lecture, les salles de conférence, pour offrir un bâtiment moderne à tous ceux qui souhaiteront le fréquenter dans les années qui viennent.
En termes d'accueil du public en ce moment avec les travaux, qu'est-ce que ça change ?
On a été obligé de fermer notre salle de lecture qui permet d'accueillir en temps normal plus de 30 personnes. C'est actuellement dans un Algeco, donc c'est évidemment pas les mêmes conditions de confort, c'est surtout beaucoup moins de place, c'est que 5 places. Mais on essaie de s'adapter et puis tout ça c'est pour offrir une salle de lecture d'encore meilleure qualité d'ici un an, puisque la fin des travaux doit intervenir à l'été 2023.
Pour les documents les plus anciens, on imagine qu'il y a des conditions assez particulières pour les conserver.
Pour les documents anciens, mais pour les documents récents aussi. Les documents récents d'aujourd'hui seront des documents anciens dans quelques siècles, puisque tout ce qui arrive dans notre bâtiment, on le conserve définitivement. Évidemment, il y a des nécessités de conservation, des conditions climatiques à respecter. Alors avant, on avait des chiffres très stricts, maintenant on est un peu plus souple, on s'est aperçu que ce qui compte, c'est de ne pas avoir d'évolution brutale dans un court laps de temps. Donc tant qu'on est autour de 20 degrés, que ça ne change pas trop brutalement, ça convient. Tant qu'on est autour de 45-50% degrés d'hygrométrie, c'est ce qui convient aussi à nos documents.
La lumière aussi, ça joue ?
On ira peut-être faire un petit tour dans les magasins de conservation. Vous verrez qu'elle est limitée. Et par exemple, quand on sort des documents pour une exposition, il ne faut pas qu'ils ne soient pas exposés à plus de 50 lux, qui est la mesure pour ce genre de choses.
Allez, je vous suis. On est parti.
Ce que je vais vous montrer, c'est plutôt des archives un peu anciennes, un petit peu esthétiques. Attendez, je ne me trompe pas de clé. Je ne les connais pas encore tous par cœur, mais quand je vois fragile conservé à plat, je me dis que c'est bon signe.
C'est un bon indice déjà.
Dans une boîte rénovée, voilà. Alors, nous avons sous les yeux un acte sur parchemin de François Ier. Et je peux vous affirmer que c'est François Ier parce que c'est tout à fait une écriture du XVIe siècle. Et puis, il y a ce sceau, qui est un grand élément de validation à partir de l'époque mérovingienne.
Donc là, on est sur un document d'exception quand même.
C'est quand même un acte fascinant qui a bientôt 500 ans, qui a conservé une bonne partie de son sceau, mais on est en présence d'un sceau restauré.
Quand on voit toutes ces conditions de conservation, on se rend compte que les archives, c'est un peu à la frontière entre l'histoire et les sciences, un petit peu, non ?
Il y a de plus en plus de sciences dans les histoires, et je dirais de manière générale, on sait depuis au moins 50 ans qu'il y a nécessité de croiser les disciplines. L'histoire a besoin d'à peu près toutes les autres disciplines scientifiques.
On vous sent assez passionné par ça. C'est quoi qui vous plaît le plus dans ce métier ?
Moi, j'ai toujours été passionné par l'histoire. Plus je le pratique et plus il me passionne parce que c'est le reflet de la vie de millions de personnes, en fait, tous ces documents d'archives.
Loire Mag, ça bouge dans la Loire.
Acheter local, bio, près de chez soi, c'est pas toujours évident à concilier. C'est pourtant ce que Graine Locale a essayé de faire. Ce magasin bio s'efforce de fournir à ses clients des produits locaux avec le moins d'impact carbone possible. On en apprend plus avec Clarisse Romeron, gérante et créatrice de la Graine Locale. Elle est au micro de Clément Monsignor.
L'entreprise a été montée fin 2018. Au début, en fait, c'était vraiment qu'un système de drive. Le but était d'éviter tout ce qui était gaspillage. Donc, les clients commandaient sur le site internet et on passait commande au producteur directement. Donc, il n'y avait vraiment pas du tout de perte. Et donc, après, il y a eu le Covid, beaucoup d'événements et il fallait avoir un pas de porte. C'était essentiel. Pour nos clients, du coup, j'ai monté un magasin fin d'année dernière à Andrézieux. Je dis « je » au début et « nous » à la fin, parce que j'ai une alternante maintenant depuis septembre avec moi, Margot.
Alors, tout ça commence en 2018, puis arrive très vite, hélas, en 2020, le Covid. Comment vous avez vécu, vous, cette situation, finalement, parce qu'on a vu une recrudescence quand même, on va dire, de l'intérêt pour les produits locaux, justement, etc. Est-ce que ce fut votre cas ou est-ce qu'au contraire, il y a eu un manque à gagner vraiment pour la graine locale pendant c'est presque 2 ans de pandémie?
Ah non, on a bien remarqué que les gens avaient découvert les produits locaux. Il y avait tellement d'affluence, c'était compliqué même à gérer pour moi qui étais toute seule. Voilà, non, ça a très bien fonctionné parce que tout le monde voulait un drive. Le site internet est très bien fait. Il a d'ailleurs reçu un prix en 2018 au salon du e-commerce de Saint-Etienne, le salon Click and Shop. Donc tout était en place, donc forcément ça a très très bien fonctionné.
Justement, qu'est-ce qu'on y retrouve dans ce drive ?
Alors, on va retrouver des fruits et légumes, de la viande, du fromage, enfin tous les produits frais. Et après, on a aussi tout ce qui est épicerie sucrée salée et une partie maison. Donc, on va retrouver dans l'épicerie sucrée des jus de fruits, des confitures, des cakes. L'épicerie salée, classiquement, les conserves et tout ça. Et après, en maison, on va avoir aussi une grande gamme de produits d'entretien en vrac qui est fait dans la région. On a développé aussi une petite gamme de cosmétiques avec des savons produits localement.
Alors c'est vrai que quand on dit produits locaux, j'ai pas envie de dire ça veut tout et rien dire parce qu'on comprend quand même ce que c'est qu'un produit local, mais on est à quelle distance à peu près ? C'est quoi ? C'est dans la région, on va dire, Auvergne-Rhône-Alpes ? Est-ce qu'on est encore plus restreint que ça ? Comment ça se passe ?
Alors en frais, on essaye d'être que sur le département, donc dans la Loire. Et après, on va un peu plus loin sur tout ce qui est produits d'épicerie. On fait la région. Dans le magasin, sur chaque étiquette, on retrouve notre logo qui est un curseur, en fait, avec le département indiqué dedans. On essaye d'être assez clair sur la provenance des produits. Et puis, on est là pour répondre aux questions si besoin, parce qu'on travaille vraiment en direct avec les producteurs. Donc, on a les réponses. Et puis, si on les a pas, on appelle le producteur et on l'a.
Oui, ça permet d'avoir par exemple des châtaignes entières bio d'Ardèche, par exemple le GAEC de Samarie. Donc c'est à Saint-Jean-Chambre, si je dis pas de bêtises. Hein.
C'est
châtaignes entières bio. Non, mais je prends un exemple évidemment un peu sorti de son contexte pour montrer qu'effectivement on peut avoir tout plein de produits à la graine locale. Comment vous les choisissez les producteurs? C'est vous qui regardez un petit peu ce que vous avez envie de proposer, les clients qui vous disent bah tiens il manque ça, on aimerait bien ça. À vous, à charge de trouver un producteur, ça se passe comme ça ou au contraire, maintenant, peut-être que les producteurs décrochent leur téléphone et vous appellent directement?
Eh ben, il y a les trois possibilités. On est un peu là, c'est ça. Ce qui est super bien dans ce métier, c'est qu'on est un peu là pour dénicher aussi les producteurs qui sont souvent très peu visibles. Leurs produits sont vraiment de qualité et qu'on a envie de mettre en avant. Donc, on a cette partie-là. La partie où, bien entendu, les producteurs nous démarchent. Et la troisième, où oui, les clients nous disent, il nous manquerait ça. Et donc là, on fait nos démarches et on cherche.
Un mot sur, parce qu'on parle évidemment beaucoup de pouvoir d'achat, d'augmentation des prix. Qu'en est-il à la graine locale, Clarisse Romeron?
Alors, il y a des augmentations, forcément. Il n'y a pas eu d'augmentation par rapport au gasoil, par exemple, puisqu'on est à côté. Donc, il n'y a pas d'impact là-dessus. Mais oui, il y a eu des augmentations, surtout les producteurs de produits laitiers comme des yaourts et tout ça. Ils ont été très impactés par rapport à leur emballage, en fait. Oui, il y a des augmentations qu'on essaye de maintenir au maximum parce que les producteurs savent très bien qu'ils sont obligés de faire de leur mieux pour avoir un prix d'achat quand même accessible pour le client. Mais bon, il faut qu'ils vivent aussi. Donc
c'est un sujet justement de discussion avec les producteurs, arriver à trouver ce juste milieu.
C'est un sujet de discussion pour comprendre et voir comment on pourrait pallier ensemble à ces augmentations. Après, à des moments, il n'y a pas de solution. Mais en tout cas, nous, la graine locale, on ne négocie absolument pas les prix à nos producteurs. On se dit que s'ils ont fixé leurs prix de telle manière, c'est qu'il faut que tout le monde vive. Donc, voilà.
Vous proposez, je suis sur votre site évidemment, lagrainelocale.fr, et puis vous proposez même des paniers. Alors les paniers de fruits et légumes, on connaît, mais on a des coffrets de bière, l'alcool est à consommer avec modération, évidemment, pour les petits apéritifs, on a des coffrets bien-être également, des pochons gourmands. Le but c'est quoi? C'est de se dire, allez, on peut faire un cadeau sympa aussi.
Voilà, alors ça typiquement c'est à la demande du client en fait. Enfin, on faisait le panier de fruits et légumes depuis le début, souvent les gens avaient un type de panier, ils disaient on veut des paniers mais que des produits locaux. Du coup, forcément la cible de la graine locale c'était bien ciblé, mais du coup ils voulaient aussi qu'on leur fasse des propositions et au moins c'est plus facile, au moins ils voient directement le prix du panier, ils ont une photo, c'est assez parlant, donc ils apprécient beaucoup et pour les fêtes de Noël ça te marche très bien.
Loire Mag, évadez-vous ici.
La Fourme de Montbrison fête les 20 ans de son AOP, l'appellation d'origine protégée. Plongée dans les secrets de fabrication du fromage incontournable de notre département, dans un reportage de Clément Bonsignor, c'est à Sauvin qu'il s'est rendu, à l'entreprise laitière qui fabrique les Fourmes de Montbrison Tari. Visite de l'atelier avec Eric Soubéran, le directeur de l'entreprise laitière.
Ici, c'est déjà bien, cache-barbe. Moi, je vous change, je vous récupère à la porte là. Allez, pas de souci. C'est bon.
Voilà, on est Allez. Tout bon. Je m'appelle Eric Soubéran, je suis le directeur de l'entreprise laitière de Sauvin qui fabrique de la fourme de Montbrison pour son produit vraiment phare.
On est ici en plein milieu de l'atelier de fabrication.
C'est ça, c'est l'atelier de fabrication. Donc c'est là qu'on transforme notre lait en fourme.
Mais d'abord il faut qu'il arrive ce lait, il y a des producteurs qui sont en amont évidemment.
Exactement, donc on travaille avec 21 producteurs de lait. En gros ça fait à peu près une trentaine de kilomètres autour de la fromagerie.
Parce que la fourme de Montbrison c'est une AOP, ça veut dire qu'il y a un cahier des charges. Là aussi on ne fait pas ce qu'on veut même dans la provenance du lait.
Exactement, donc en 1972 il y a eu une AOC, alors qui était, c'est un peu comme l'AOP mais c'était au niveau français, qui était fourme d'Ambert et de Montbrison. Les deux fourmes qui ont la même origine étaient ensemble parce qu'elles ont leur origine toutes les deux sur les Hauts-de-Chaumes. Et puis petit à petit, en fait, les deux produits ont commencé à être un petit peu différents dans leur façon d'être fabriqués. Ce qui fait qu'en 2002, il y a eu une séparation des deux AOC. Et d'un côté, il y a eu Ambert, de l'autre côté, il y a eu Montbrison. Et en 2009, l'AOC est devenue AOP, alors qui est la même chose que c'est au niveau européen. Alors, à noter qu'on est en 2022, et 2002-2022, ça fait 20 ans. Donc, cette année, on fête les 20 ans de l'AOC Fonte de Montbrison.
Donc, le lait est trié, puis amené dans les cuves. Alors, on va monter en même temps qu'on parle, qu'on fait attention de ne pas glisser.
Là, il y a plusieurs centaines de litres dans ces cuves, quand même. Elles sont immenses.
Il y a 4000 litres. Là, vous avez deux cuves. Ces deux cuves-là sont faites pour la fonte de Montbrison. Les différentes étapes. La première étape, c'est de mettre le lait dans la cuve. Ensuite, on y rajoute des ferments lactiques. En fait, c'est un peu comme la farine du pain où on fait travailler avec des levains. Et ben, nous, c'est la même chose. On fait travailler des levains et ça va nous permettre d'acidifier le lait, déjà d'une part. Ça veut dire que ça va aider un petit peu l'affinage à terme. Et ça nous permet aussi de protéger le lait des mauvaises bactéries. Et ça nous permettra d'amener des goûts, etc. aussi. Voilà, c'est vraiment une étape importante. La maturation, c'est ce qui va nous permettre aussi d'avoir une forme plus ou moins onctueuse à la fin, etc. C'est grâce à l'étape de maturation. Parce que le but du fromage, c'est quoi? C'est qu'on a une matière première qui a 87% d'eau. Et on va en fait conserver du lait en passant de ce lait de 87% d'eau, le passer à 50% d'eau. Et c'est le but du fromage, c'est de garder. Le lait ne se conserve pas alors que le fromage se conserve, mais c'est en fait, on conserve du lait par le fromage. Voilà, c'est un petit peu ça.
Donc je suppose qu'après ça, bon bah ça reste peut-être encore en cuve un petit moment et puis il va falloir égoutter tout ça.
Exactement, on va passer à l'étape de moulage, qui est particulière pour la fonte de Montbrison parce que c'est le seul fromage bleu. On va broyer notre cahier. Et on va le saler dans la masse. Voilà. Un fromage, habituellement, il est moulé. À la Montbrison, la première étape, c'est qu'on va faire sortir toute la cuve avec le lactosérum et le caillé. On va tout mettre ça dans le bac de prépressage que vous voyez là. Le petit lait va partir. Les petits grains vont rester. Ils vont reformer un gros gâteau de fromage, si vous voulez. Et ce gros gâteau de fromage, on va le couper en cubes d'à peu près 7 kg, 7-8 kg, qu'on va passer dans un broyeur. On y rajoute du sel. Et après, on y met en moule.
Alors, on redescend évidemment nos escaliers, on va retraverser la salle de fabrication.
Et là, on arrive à la salle d'égouttage de la fonte de Montbrison.
Là, ça sent bien le fromage.
Ouais, c'est encore léger là. C'est
vrai.
Mais on veut dire qu'un fromager travaille beaucoup à l'odeur. À l'œil, à l'odeur, au toucher. Et quand je sens cette odeur-là, je sais que ça se passe bien. Donc là, on retrouve nos fourmes qui ont été moulées. Elles sont enfermées maintenant dans leur chariot. Et c'est de là qu'on les retourne 5 fois. Après, donc, elles restent toute la nuit tranquilles. Le lendemain, on va sortir les fourmes de leur moule. On va les rouler dans le sel. Ça, c'est une obligation aussi de l'AOP. L'AOP nous dit un léger enrobage de sel. Donc là, après, c'est posé sur des jetons en bois. C'est une obligation de l'AOP. C'est une obligation technique aussi, parce que si on n'avait pas ça, on n'aurait pas de croûtage orangé. C'est du bois local. Après, elles vont rester 6 jours sur les chenaux. Donc un jour en moule et 6 jours sur les chenaux à 22 degrés et à 98% d'humidité. Donc là, c'est pas la même température. Hein.
Non, il fait plus frais là. Hein.
Voilà. Donc là, ici, on a 11 degrés. Et l'idée, au début, pendant les premières heures, quand on les amène là, c'est qu'elles se refroidissent et qu'elles durcissent un peu. On les met droites dans les caisses et elles vont partir à l'affinage. Il faut qu'on fasse rentrer de l'oxygène dans la fourme. Je fais 2 piquages, un dans ce sens-là qui va piquer comme ça, et puis après on tourne d'un quart de tour et on repique, et ça me fait une croix. Donc là, nos fourmes en 10 jours, je les pique. Une fois que je les ai piquées, je les mets en cave. Il faut à peu près entre 13 et 15 jours pour que la moisissure se développe. Donc au bout de 15 jours, donc ça nous fait 25 jours, donc en gros, au bout de 25 jours, le bleu est apparu dans la fourme. Et là, on attend encore. C'est pas l'heure encore. Il faut attendre les 32e jours. Et quand on a atteint le 32e jour, ce n'est plus une fourme, c'est une fourme de Montbrison.
Loire Mag, le podcast sur RCF. Des témoignages et des rencontres avec des Ligériens pour entrer au cœur des missions du département.